pouvez faire comme vous voulez. Mais si vous n'avez pas de matériel pour prendre des notes, vous avez maintenant cette feuille, au moins. Alors, comme Sheila l'a dit, ce culte et ce message a été déjà planifié bien avant les événements de vendredi soir. Mais nous trouvons que l'Esprit fait tout bien. Parce que nous allons parler de la puissance de Dieu. Et nous allons aussi parler de la souffrance qu'on peut avoir dans cette vie. Et même si nous allons parler particulièrement de la maladie et la guérison, ce que nous voyons dans ces passages s'applique à beaucoup de niveaux dans notre vie. Et je vous encourage à appliquer ces vérités dans tous les aspects de votre vie, en tant qu'individu, en tant qu'assemblée et en tant que peuple de Dieu. Alors, nous continuons notre parcours dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous serions dans ce livre jusqu'au mois de janvier. Et maintenant, nous allons commencer à avancer un peu plus rapidement, parce qu'il y a 28 chapitres dans le livre et on ne va pas tout voir. La semaine dernière, nous sommes arrivés à un chapitre charnière dans ce livre, chapitre 9, qui porte sur la conversion de l'apôtre Paul. C'est un chapitre charnière parce que si le livre entier raconte l'avancement du règne de Jésus depuis Jérusalem jusqu'au bout de la terre, c'est avec la conversion de Paul que l'évangile va commencer à vraiment toucher le monde non-juif. Finalement, nous. C'est Paul qui sera connu comme l'apôtre aux nations, celui qui va annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux non-juifs. Et c'est justement ces lettres à ces gens-là qui constituent une grande partie de notre Nouveau Testament. Les épîtres aux Romains, les épîtres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates, et ainsi de suite. Et donc, avant la fin de l'année et la fin de notre temps dans ce livre, nous allons avoir l'occasion de regarder ensemble comment l'Esprit va utiliser Paul pour accomplir cette mission aux non-juifs. Et ce que ça veut dire pour nous, les héritiers de cette mission. Donc ça, c'est une petite prévision des semaines qui arrivent. Mais avant de passer à cette deuxième partie du livre, nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui se soulève tout au long de ce livre, depuis le début et jusqu'à la fin. Et il vaut un regard attentif de notre part. C'est un sujet qui ressort encore une fois, même avant la fin du chapitre 9. Après la conversion de Paul, nous avons trois versets qui évoquent la maladie et la guérison. Donc, lisons ensemble les versets 32 à 34 du chapitre 9. C'est très court. « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Ce que nous avons ici, c'est un événement qui est décrit très brièvement, mais qui nous rappelle ce que nous avons déjà vu avec Pierre et Jean, par exemple, devant le temple au chapitre 3, et la prière des disciples que Dieu entende sa main pour guérir au chapitre 4, et la multitude au chapitre 5, et ça va se reproduire encore plusieurs fois avant la fin du livre. C'est-à-dire, c'est un thème extrêmement important pour l'Église primitive, et bien sûr, c'est encore d'actualité de nos jours. Le défi pour nous, c'est que même si le récit dans ces trois versets est bref et assez simple, c'est un thème qui est compliqué. Parfois, nous hésitons peut-être à dire que certains aspects de la Bible sont compliqués. Et c'est vrai qu'une des manières que nous, les êtres humains, que nous avons pour éviter ce que Dieu veut nous dire, c'est de parfois dire en réponse, ben, c'est compliqué, je ne sais pas. Est-ce qu'il a vraiment dit ça, et comme le serpent dans le jardin, par exemple? Tout en voyant la vérité très claire devant nous. Nous avons tous tendance à cacher la vérité derrière la complexité. Vous connaissez peut-être l'expression qu'on voit de temps en temps, surtout sur Facebook, par rapport à la situation amoureuse d'un ami. Vous connaissez le célèbre « c'est compliqué ». Et quand tu vois « c'est compliqué » sur le Facebook d'un ami, tu sais que bah, peut-être, en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais la personne ne veut pas dire la vérité, c'est tout. Et ça va, sur Facebook, tu as le droit de dire que c'est compliqué quand tu ne veux pas t'expliquer trop. Mais avec la Bible, il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas nous cacher derrière une fausse complexité. Alors, en même temps, comme dans nos situations amoureuses, certaines choses dans la Bible sont compliquées. Jacques lui-même le dit par rapport aux épîtres de Paul. Il dit que parfois, Paul écrit des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Si la vérité était toujours simple, nous n'aurions pas autant de pages dans notre Bible. Et ça exige donc un vrai effort de notre part pour voir la vérité à la lumière de l'ensemble des Écritures et non pas juste une page ici et là. Et je dis tout ça pour expliquer pourquoi on va voir tellement de versets ce matin. Ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui avec la question de la maladie et la guérison, c'est de voir l'ensemble. Et donc nous allons sortir de ce passage pour comprendre globalement ce que la Bible enseigne. C'est un sujet qui touche en plus beaucoup d'autres qui nous sont chers. Le mal, le péché, la providence de Dieu, le jugement, la mort, notre résurrection, la prière, et ainsi de suite. Et donc, ça ne sera pas possible d'en dire tout ce matin. Mais nous allons essayer quand même de reconnaître certaines grandes lignes et pour voir ce que ça veut dire pour nous. Je vous propose donc un message en trois étapes qui sont sur la feuille. Quoi, quatre en fait. Il faut que je ne me trompe pas. Et je vous encourage à noter sur cette feuille les versets et vos commentaires et aussi vos questions. Parce que celui-ci est un sujet très personnel, bien sûr, et qui nous touche profondément. Et c'est possible que vous ne soyez pas d'accord avec tout ce que je dis. Et ça va. Ce n'est pas moi qui dis la vérité, c'est la parole. Et la richesse de cette assemblée, c'est de chercher ensemble ce que la parole nous enseigne. Et je vous encourage vivement d'en parler dans vos groupes de maison et d'en prier les uns avec les autres. Si vous aimeriez creuser encore plus, je vous encourage aussi à lire le document qui a été rédigé par le Conseil national des évangéliques de France. On va mettre le lien sur notre site web, mais c'est un document très bien rédigé, je trouve, par un comité constitué de gens, de chrétiens, de plusieurs perspectives, pentecôtistes, évangéliques classiques, réformés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trouvé plus ou moins un point de vue assez commun en regardant la Bible ensemble. Alors, aujourd'hui, commençons par la question, qu'est-ce la maladie? Voilà les quatre étapes. Et donc, qu'est-ce la maladie? Ça peut sembler évident peut-être, mais je pense que ça vaut la peine de le dire. La maladie fait partie de la mort. Elle est entrée dans le monde avec la mort au moment de la chute en Genèse 3. Elle est dans ce sens le résultat du péché. Le péché qui a mis dans le désordre tout le monde physique. Et désormais, notre corps physique fait partie d'une création brisée par le péché. Et donc, elle fait partie du désordonnement et du désintégration ultime que nous allons tous expérimenter, la mort de notre corps. Quand nous sommes malades, c'est une petite partie de la mort, un petit morceau de la mort qui est déjà à l'œuvre en nous. Les scientifiques disent même que notre mort commence au moment de notre naissance. Parce que dès notre naissance, notre corps commence à désintégrer. Alors, ça peut sembler un peu morbide d'en parler comme ça. Mais c'est la réalité biblique par rapport à notre monde et la vie que nous vivons. Notre monde est envahi par la mort et nous le sommes aussi. Chez nous, dans notre jardin, nous avons un grand arbre. Je ne sais même pas de quelle espèce et il n'est pas très beau. Il est juste à la limite de notre jardin. Et chaque printemps, je trouve ici et là, partout dans le jardin, au milieu du gazon, beaucoup de petites versions de ce grand arbre. Le jardin en est envahi chaque année. Et la première année dans la maison, je pensais que c'était que l'arbre avait semé des graines dans l'herbe. Mais finalement, un ami jardinier m'a expliqué qu'en fait, ce sont les racines du grand arbre qui s'entendent sous le sol et qui sortent pour pousser au milieu de mon jardin, comme des petits tentacules verts qui passent sous le gazon. Et je trouve que la mort et la maladie sont comme ça, parce que nous avons tous devant nous un grand arbre qui est la mort, un grand arbre sur notre chemin. Personne ne va y échapper, sauf si Jésus retourne avant. Chacun va passer tôt ou tard sous ce grand arbre placé sur notre chemin. Mais déjà, même pour les jeunes ici, désolé les jeunes, mais déjà, les racines de cet arbre agissent dans notre cœur. Ils commencent à l'envahir par leurs petites pousses. Donc voilà le premier point. La maladie est un bras de la mort. Deuxièmement, en tant que bras de la mort et résultat du péché originel, c'est logique que Satan s'en serve parfois comme outil d'oppression spirituelle. Nous lisons en Luc 13, 11 d'une femme qui a un esprit qui la rend infirme, par exemple. Vous pouvez voir aussi Acte 10, 38. C'est-à-dire, tout en faisant partie du monde naturel maintenant, la maladie peut aussi avoir une cause purement spirituelle. Ce n'est pas toujours le cas, comme nous le verrons, mais notre cœur et notre âme sont étroitement liés et la maladie peut être un outil de l'ennemi pour attaquer les deux. Mais, et voici le grand mais et notre troisième point, ce que nous voyons dans la Bible, c'est que tout outil de l'ennemi peut devenir aussi un outil dans la main de Dieu. Tout outil de l'ennemi. Si vous vous en souvenez de rien après ce message, c'est ça peut-être le point le plus important. Tout outil de l'ennemi peut devenir un outil pour le bien dans la main de Dieu. Toute chose, nous lisons, concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La mort même. Même si la mort est un grand mal, le plus grand même, et le dernier ennemi de l'humanité, 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi de l'humanité, elle peut être aussi un outil dans la main de Dieu. C'est par la mort que nous serions libérés de ce corps corruptible, par exemple. Ça c'est 1 Corinthiens 15, 35 et 2 Corinthiens 5, 8. Je vais le redire, 1 Corinthiens 15, 35, 2 Corinthiens 5, 8. C'est marqué là. Ben, tout le chapitre 1 Corinthiens 15 est un chapitre important à cet égard. Donc, pareil pour la maladie, ce petit frère de la mort. La maladie peut être un outil dans la main de Dieu. Mais justement, pour faire quoi exactement? Nous voyons au moins quatre grandes catégories dans la Bible. Donc, je vais essayer de les décliner. D'abord, la maladie peut être utilisée par Dieu comme un jugement ou une punition. Notons d'emblée que je ne dis pas qu'elle l'est toujours un jugement ou une punition. J'ai dit qu'elle peut l'être. Tout comme Dieu a puni Ananias et Saphira par la mort en Acte 5, par exemple, ou Achan et Uzza dans l'Ancien Testament, il peut aussi envoyer ou permettre la maladie comme jugement. Pour un exemple de cela, dans le Nouveau Testament, il y a 1 Corinthiens 11, 30 à 32. C'est marqué là. Nous avons aussi l'histoire de Naaman dans l'Ancien Testament en 2. Je l'ai laissé en anglais, excusez-moi. 2 Rois 5. Alors, en même temps, il faut toujours être très prudent à cet égard. Parce que la seule fois que les disciples ont essayé ce genre de raisonnement, qu'il y a une maladie qui est le jugement de Dieu, Jésus leur dit clairement qu'ils avaient tort dans ce cas-là. Ça, c'est Jean 9, 1 à 3. C'est à la fin, là. Jean 9, 1 à 3. Les disciples demandent qui a péché pour que cet homme soit aveugle. Et Jésus dit, personne. Personne n'a péché pour que cet homme soit aveugle. C'est simplement pour que la gloire de Dieu puisse se révéler à travers lui. Personne n'a péché. On reviendra à cette idée de glorifier Dieu dans un instant, mais deuxièmement, comme outil dans la main de Dieu. Si elle peut être un outil de jugement, la maladie peut être également un outil de sanctification. C'est-à-dire un moyen de devenir plus proche de Dieu. Pensons par exemple à l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Paul parle ici d'une écharde dans la chair qui tourmente son corps. Et dans ce cas-là, ce n'est pas parce qu'il a commis un péché, mais c'est plutôt pour le protéger du péché. Pour le protéger du péché, Dieu permet cette souffrance. Et je lis, « Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve. » Et en plus, il dit, « Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. » Donc je le redis, dans la main de Dieu, même les desseins de l'ennemi deviennent un outil pour notre bien. Et Paul dit clairement que malgré ses prières, Dieu a décidé que cette souffrance devrait continuer pour le bien de l'apôtre. Donc parfois, ce n'est que la souffrance qui nous tourne vers Dieu. Et franchement, s'il faut choisir la souffrance avec Dieu ou la vie aisée sans Dieu, nous sommes tous mieux dans la souffrance. Et au milieu de cette souffrance, nous pouvons trouver, comme Paul, la suffisance de sa grâce. Comme nous avons chanté ce matin, « Ma grâce te suffit ». C'est Dieu qui parle à Paul au verset 10. « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Quel réconfort pour nous qui sommes faibles. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Et voir aussi Jacques 1, 2 à 4 à cet égard. Dans la main de Dieu, la maladie peut être un moyen de sanctification et une occasion de se rapprocher de Dieu. Troisièmement, la maladie peut aussi servir un rôle très terre à terre, disons, dans notre vie. Elle peut être un moyen, tout simplement, de guider nos décisions pratiques. En Galates 4, 13, Paul écrit aux Galates, « Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'Évangile pour la première fois. » Et voici ce dont il parle dans ce verset. En Actes 16, 6, Paul dit que l'Esprit l'avait empêché d'aller ailleurs. Et si on lit les deux ensemble, ce qu'on voit, c'est que à un certain moment, Paul allait, il allait ailleurs, mais il avait une maladie qui l'a empêché, et finalement, c'est à cause de cette maladie qu'il a pu prêcher l'évangile aux Galates. Dans ce cas-là, l'Esprit utilise une maladie pour conduire Paul dans sa vie, pour le guider très concrètement vers une certaine destination. Comme toute autre chose, la maladie peut être un outil dans la main de Dieu, tout simplement pour guider nos décisions. Et finalement, la maladie peut être aussi tout simplement un outil pour révéler la gloire de Dieu. Ça peut être un outil pour sa gloire par la guérison, comme nous voyons avec les disciples en Jean 9, parce que Jésus guérit cet homme aveugle. Et aussi, nous le voyons partout dans le livre des Actes, avec l'histoire de Lazare en Jean 11. La maladie peut être une occasion pour voir la gloire de Dieu à travers la guérison. Mais la maladie peut être aussi un outil pour la gloire de Dieu dans l'absence de la guérison. Parce qu'un croyant qui reste fidèle, même face à la souffrance, c'est un témoignage qui peut être même plus fort que la guérison elle-même. Comme Job, par exemple. Bien sûr, à la fin du livre, Job reçoit tout ce qu'il a perdu. Mais rappelons-nous que lui, Job, il ne savait pas ce que ça allait se passer comme ça. Et pourtant, il est resté fidèle. Rappelons-nous aussi que nous allons recevoir tout ce que nous avons perdu à la fin. C'est ça toute l'idée de notre résurrection à la fin des temps, pour vivre avec Jésus. Mais entre-temps, rester fidèle est un témoignage qui n'a pas d'égal. Je cite Paul, 2 Corinthiens 4. Même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Et il dit pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux. Son extérieur se détériore, mais son intérieur se renouvelle comme témoignage. Voilà donc, en gros, ce que c'est la maladie. Un mal dans le monde comme une partie de la mort. Mais un mal qui, entre les mains de Dieu, peut être un outil pour notre bien et pour sa gloire. Comme une plante envahisseuse, prise par un bon jardinier, qui sait l'intégrer dans son jardin d'une manière qui rend l'ensemble même plus beau. Et pourtant, la maladie reste bien un mal. La mort et la maladie avec elle restent l'ennemi de l'humanité. Et la question doit se poser donc, qu'est-ce que la victoire de Jésus accomplit pour nous à cet égard? Car nous savons que à la croix et à la résurrection, tout a changé. Mais dans quel sens? C'est la deuxième grande partie ce matin. Nous prêchons tout au long de cette série sur les actes que Jésus, après sa résurrection, est monté au trône et qui siège maintenant à la droite de Dieu le Père. Et que par son esprit, son règne vient sur terre à travers son peuple. Et il est monté au trône. S'il est monté au trône, c'est parce qu'à la croix, il a été victorieux. Il est le roi victorieux. Comment comprendre donc ce qui ne va pas toujours dans le monde? Qu'est-ce que la victoire de Jésus accomplit pour nous face à la maladie? D'abord, nous devons dire que Jésus tient maintenant toute autorité sur les pouvoirs spirituels dans ce monde. Voir Colossiens 2:15 par exemple. Les esprits mauvais fuient devant Jésus. Et devant l'autorité que nous avons en son nom. Et donc, dans un cas d'oppression spirituelle, c'est par son autorité que nous sommes appelés à chasser ce genre d'oppression. C'est par son autorité. Jésus tient toute autorité. Mais il faut se rappeler aussi que maintenant, comme dans le Nouveau Testament, la grande partie des maladies ne s'associe pas forcément avec un esprit mauvais, mais tout simplement avec notre humanité brisée. Deuxièmement, donc, et par rapport à notre humanité brisée, nous savons que Jésus s'est bien identifié avec notre état humain. Nous lisons en Matthieu 8, 17, qui cite le prophète Ésaïe, que Jésus a pris nos infirmités et qui s'est chargé de nos maladies. Ça veut dire qu'il a participé à notre vie humaine, qu'il a vécu dans ce monde brisé avec nous et qu'il est mort comme nous tous mourons. En Philippiens 2, 7, nous lisons, il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Et c'est ainsi qu'il a porté nos maladies. Même plus que ça, nous voyons que par sa vie et sa mort et sa résurrection, Jésus a établi son autorité sur ces choses-là aussi, parce qu'il est en train justement d'établir maintenant son règne sur terre. Il a instauré son règne sur cette terre. C'est le troisième point. Pendant sa vie avec nous, Jésus a signalé l'arrivée de son règne parmi nous de beaucoup de manières, y compris par la guérison. Voir par exemple Matthieu 11, versets 2 à 5. Autant que l'amour et le pardon du péché, la guérison était un signe que le règne de Dieu est arrivé sur terre. Et Jésus continue d'instaurer son règne tout au long des évangiles et aussi du livre des Actes par son esprit. La guérison physique est donnée comme signe de ce règne et aussi comme avant-goût du moment où il sera arrivé définitivement lorsque Jésus renouvellera toutes choses. Apocalypse 21. Finalement, nous voyons que par sa propre résurrection, la mort elle-même, la racine et la source de la maladie, la mort elle-même est vaincue. Jésus a réduit à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2, pour que, comme Paul le dit, à notre résurrection s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire et la maladie avec elle. Encore 1 Corinthiens 15. Malheureusement, ça ne veut pas dire que nous, en tant que croyants, que nous sommes exemptés de la maladie dans cette vie, tout comme nous ne sommes pas exemptés de la mort. Ensemble, elle reste notre dernier ennemi à être anéanti au retour de Jésus. 1 Corinthiens 15, 26 dit « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Et en Hébreux 2, nous lisons « En soumettant toutes choses à l'autorité de Jésus, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. » Et je dis malheureusement, si je dis malheureusement, c'est ma perspective humaine qui parle. Car si la mort et la maladie peuvent être des outils de Dieu, comme nous venons de voir, nous pouvons nous réjouir même dans nos souffrances, comme Paul dit en Romains 5, 3, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Jésus connaît notre souffrance. Et il est présent avec nous par son esprit, autant dans nos souffrances que dans notre guérison. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la guérison aujourd'hui? D'abord, nous pouvons dire et nous devons dire que la guérison miraculeuse nous est encore possible. Il n'y a rien dans la Bible qui laisse croire que le temps de guérison s'est terminé avec les apôtres, ce qu'on entend de temps en temps. Non, Jésus a instauré son règne et comme une graine de moutarde, ça s'accroît, ça s'augmente, ça se répand. L'Esprit de Dieu peut agir puissamment dans notre vie. Et nier ce fait serait de nier la base de notre foi, la résurrection de Jésus lui-même. Dieu peut agir avec puissance dans le monde physique. Tout le Nouveau Testament nous témoigne de la puissance de Dieu à cet égard. Nous vivons après la résurrection de Jésus et à sa lumière. Le monde est changé et ça veut dire nous aussi, nous sommes changés. C'est notre grand point de repère, la croix et la résurrection de Jésus. En même temps, si la guérison nous est possible, elle n'est pas garantie. Avec la lettre aux Hébreux, nous constatons que nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Comme toute la création, nos corps sont encore soumis à la fragilité. Romains 8. Et la volonté de Dieu reste cachée aux yeux humains. Si Aîné est guéri ici en acte 9, Tropime, en 2 Timothée 2:20, n'est pas guéri. Et Paul non plus, en 2 Corinthiens 12, ni Timothée, selon 1 Timothée 5:23. Et ce sont des gens de foi, ces hommes de foi, qui restent avec une maladie d'une sorte ou autre toute la vie. Paul, qui a guéri d'autres personnes, a prié lui-même pour la guérison, mais il n'a pas reçu. Alors, deuxièmement, toute guérison que nous expérimentons dans cette vie, qu'elle nous semble miraculeuse ou pas, c'est un avant-goût de la restauration de toutes choses par Jésus, et c'est un signe de son règne parmi nous. Quand je pense à cette réalité-là, c'est toujours cette image de l'arbre qui me vient à l'esprit. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'arbre de la mort qui jette ses racines sous mon jardin. C'est un autre arbre, beaucoup plus grand et plus beau, derrière la mort. C'est l'arbre de ma propre résurrection. Je vois ma propre résurrection devant moi. Recouvert de fleurs et de fruits sur l'autre côté de cet arbre qui est la mort. Et cet arbre, l'arbre de la résurrection, il envoie ses racines sous la surface de ma vie aussi, pour faire pousser ses pousses en moi déjà. Et parfois, cette vie qui pousse en moi, ces petits avant-goûts de ma résurrection, ces petits morceaux de mon avenir, ils me régénèrent dans mon esprit. Ils renouvellent mon intelligence. Et parfois, il chasse le mal et la maladie de mon cœur aussi. C'est la guérison que nous voyons dans la Bible. C'est la puissance de la résurrection déjà disponible dans notre vie maintenant. Nous avons devant nous tous notre propre résurrection. Et cette résurrection peut agir dans notre vie déjà. Alors, troisièmement, si la guérison nous est possible maintenant, c'est un don parmi les autres qui peuvent se manifester dans l'Église. En 1 Corinthiens 12, nous lisons que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le don des guérisons? D'abord, il faut noter que ce sont les guérisons elles-mêmes qui sont les dons de Dieu. Le don n'est pas une capacité ou un pouvoir spécial. C'est les guérisons elles-mêmes qui sont décrites comme les dons. Et ça veut dire donc que c'est toujours à Dieu d'accorder ou pas ces guérisons dans telle ou telle situation. C'est tout comme les autres dons, comme l'évangélisation par exemple. si je suis doué pour aller vers les gens et parler de l'évangile, ça ne veut pas dire que tout le monde va se convertir quand je vais vers eux. C'est à l'esprit de produire les résultats, non à la personne. Et si vous êtes privilégié d'être sensible à l'esprit, à cet égard, et d'être utilisé par lui comme le canal pour lequel une guérison arrive, c'est une grâce qui vous a été accordée, autant pour vous que pour la personne qui reçoit la guérison. C'est une grâce d'être utilisé par Dieu de cette manière. Alors finalement, pour notre vie, il faut reconnaître que la guérison n'est pas moins un don de Dieu quand elle nous est donnée à travers ce que nous appelons un moyen naturel, c'est-à-dire par la médecine ou autre connaissance humaine. Toute bonne chose dans notre vie vient de Dieu, peu importe le moyen. Et il faut remercier Dieu pour toute bonne chose dans notre vie. La délivrance des disciples grâce à l'intervention de Gamaliel qu'on a vu il y a quelques chapitres, c'était un don de Dieu qui arrive aux disciples. Et c'est autant le don de Dieu que l'ange qui arrive. Dieu peut agir de beaucoup de manières. Et il faut le voir à l'œuvre dans toutes les bonnes choses qui nous arrivent. Et donc, quand Paul écrit à Timothée, en 1 Timothée 5, 23, « Prendre du vin pour tes problèmes d'estomac, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la foi en Dieu. C'est tout simplement que si Dieu t'a déjà donné une solution, pourquoi la refuser? Mieux vaut de la prendre et d'en remercier Dieu. Toute bonne chose vient de lui. » Alors, pour terminer, que faire et ne pas faire face à la maladie dans notre vie et dans notre Église? Alors, d'abord, nous sommes ordonnés de prier pour les malades. Prier pour la guérison, pour nous-mêmes et pour l'autrui. Nous avons le commandement en Jacques 5 de prier pour les malades parmi nous et de ne pas le faire serait une désobéissance grave. En même temps, notons aussi que dans ce passage en Jacques, ce n'est pas simplement la guérison physique qui est en vue. Nous devons prier pour tous ceux qui souffrent pour n'importe quelle raison, qu'ils soient délivrés de leur souffrance, si c'est la volonté de Dieu, et que quoi qu'il arrive, qu'ils soient réconfortés, qu'ils soient sauvés, et qu'ils aient la paix qui dépasse toute compréhension. Et quand nous prions, pour n'importe quel sujet d'ailleurs, prions avec foi et aussi humilité et reconnaissance. Prenons toujours comme modèle la prière de Jésus, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est comme ça que nous sommes enseignés de parler. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est Jésus, notre grand prêtre, qui règne maintenant. Approchons-nous de son trône avec assurance, mais aussi avec humilité. C'est pour cette raison que je vous encourage d'éviter un langage de revendication dans nos prières. Parce que nous ne voulons jamais nous mettre à la place de Dieu. Oui, nous avons l'autorité sur les esprits au nom de Jésus. Et là, nous pouvons parler avec autorité. Mais nous n'avons pas l'autorité sur Dieu. Bien évidemment. Et donc, s'il ne s'agit pas d'une maladie causée par un esprit, ce qui est en général le cas, nous ne pouvons que demander à Dieu d'agir par sa miséricorde. C'est aussi par souci de ne pas nous mettre à la place de Dieu que nous devons faire attention en attribuant une maladie à telle ou telle cause. Oui, parfois ça peut être un esprit et parfois ça peut être un péché. Ou peut-être c'est un péché qui empêche l'esprit d'agir. Ça arrive. Il faut le reconnaître et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on confesse nos péchés. Mais très souvent, pour la maladie, ce n'est aucune de ces choses. Et sans une révélation directe de Dieu, nous ne pouvons pas savoir. Alors, nous demandons avec confiance et humilité que Dieu agisse. Et si quelqu'un pense avoir reçu une révélation par rapport à la cause d'une maladie, quoi faire? Parce que ça arrive. La prophétie est un don et Dieu peut révéler les choses. Ce que je conseille, c'est simplement présenter toujours ce genre de choses comme quelque chose qu'on pense avoir reçu de Dieu. Et le dire ainsi n'est pas pour dire qu'on n'a pas confiance en Dieu. C'est simplement de reconnaître que même si Dieu est Dieu, nous ne sommes pas. Et un être humain peut toujours se tromper. Se souvenir de ce fait nous aidera à éviter à la fois des fausses assurances et aussi des condamnations inutiles qui ne rajoutent qu'une autre couche de souffrance. Alors, priez les uns pour les autres, mais toujours avec sagesse et sensibilité. Alors, deuxièmement, l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 14, nous encourage de faire appel aux anciens pour qu'ils puissent prier pour le malade. Alors, pourquoi les anciens? Justement parce qu'une maladie peut être liée à un problème spirituel. C'est pour ça que Jacques nous rappelle de confesser nos péchés les uns aux autres quand on prie pour la guérison. Et c'est la charge de l'ancien de veiller sur la santé spirituelle de l'assemblée. Et en plus, si une maladie n'a pas une cause principalement spirituelle, elle va toucher quand même notre vie spirituelle. Parce que la maladie exige une maturité profonde. La maladie est toujours une occasion de faire le point avec Dieu et d'approfondir notre relation avec lui. Cela n'est pas pour dire que les frères et les sœurs de l'Assemblée ne devraient pas faire cela eux-mêmes, pour eux-mêmes, entre eux-mêmes. Et ce n'est pas que les anciens qui peuvent le faire, mais simplement, il faut dire qu'à un certain point, c'est bien d'impliquer les gens qui ont reçu la charge spirituelle pour l'Assemblée. Parce que la maladie physique implique toujours un aspect spirituel, soit dans sa cause, soit dans notre réponse. Alors, la dernière chose que nous sommes appelés à faire face à la maladie, c'est de prier pour la persévérance et le réconfort pour le malade. 2 Corinthiens 4, 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Nous sommes appelés à réconforter les uns les autres. Et c'est très souvent à cause des souffrances que nous avons vécues que nous serions capables de réconforter les autres. Prions que peu importe la cause de la maladie, que ça soit une occasion pour le malade de chercher Dieu, de trouver sa confiance et sa paix en lui, de confesser ses péchés aussi. Et d'expérimenter et de témoigner de sa puissance. Sa puissance soit dans la guérison, soit par la fidélité dans la souffrance. C'est une grâce de rester fidèle face à la souffrance. Ce n'est pas moins une grâce que la guérison elle-même. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Il y a devant nous tous une barrière, un grand arbre sur notre chemin qui est la mort, sous lequel il va nous falloir passer tôt ou tard. Et déjà, la mort cherche à nous détruire et à nous décourager, en s'attaquant à notre corps déjà avant notre mort. Mais, et je cite Paul ici, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. » Derrière le jour de notre mort se tient haut et grand le jour de notre résurrection. Et déjà, cette résurrection est à l'œuvre en nous, intérieurement, et gloire à Dieu, extérieurement aussi. Prions que le règne de Dieu vienne dans chaque aspect de notre vie, dans notre esprit, dans nos cœurs et dans notre vie ensemble. Prions ensemble. Seigneur, nous te reconnaissons comme vainqueur de la mort. Tu es le Dieu puissant. Tu es plein de miséricorde. Et nous te demandons simplement de faire ta volonté dans notre vie, de nous donner la grâce pour notre appel, pour ce que tu veux pour nous, que nous ayons la grâce qu'il nous faut. Nous avons tellement besoin de toi dans nos souffrances physiques, dans nos difficultés émotionnelles, spirituelles. Ce n'est que toi qui peux nous guérir. Nous avons besoin de toi. Que tu nous soutiennes par ta main forte. Au nom de Jésus. Amen.
Nous allons terminer notre culte par un dernier chant.